RénoDays, le forum de la rénovation globale et performante des logements, les 12 et 13 septembre 2023 à Paris Expo, porte de Versailles.
Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur nos antennes pour vous faire vivre ce forum RénoDays pendant 2 jours. Voilà, c'est la seconde journée et j'ai le plaisir d'accueillir 2 députés, oui, non pas une, mais 2. Marjolaine Meignet-Villefer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée de la 10e circonscription d'Isère et Lionel Cosse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée de la 2e circonscription des Landes, ravie de vous retrouver sur ce plateau. Alors, vous avez d'autres fonctions, oui. Dont on parlera dans un deuxième temps, hein, puisque vous êtes également présidente, Marjolaine, de l'Alliance HQE. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Et Lionel Cosse, vous êtes président du Conseil national de l'habitat. On va parler les logements un petit peu après, mais alors j'ai envie de vous dire, bon, vous avez l'air de courir partout, vos impressions sur ce salon RénoDays, sur ce forum.
Mais écoutez, c'est très dynamique, très complet, et je trouve qu'il y a un accueil vraiment très professionnel, c'est-à-dire que nous avons des échanges très constructifs.
Avec les professionnels,
voilà, on est vraiment dans une démarche, je dirais, de partage d'informations, de construction aussi, mais de l'avenir. Donc c'est vraiment un salon, je dirais, qui a un très très grand intérêt. En tout cas, je devais partir il y a un petit moment.
Oui, je précise que vous n'avez toujours pas déjeuné, il est 14h30.
Voilà, et comme quoi, vous voyez, on a beaucoup à faire et je pense que ça va durer encore un petit moment.
D'accord. Marjolaine, vos impressions ?
Absolument, moi je partage totalement ce que vient de dire Lionel Cosse. On a ici un salon extrêmement dynamique, beaucoup d'énergie qui se déploie et ça montre à quel point les gens sont engagés sur ce sujet de la rénovation globale et performante, hein, qui est quand même un changement de méthodologie qui s'impose vraiment au secteur de la rénovation. Et effectivement, on voit des acteurs engagés qui ont envie de se lancer, qui débordent d'idées et de suggestions pour nous. Donc c'est vrai qu'on peut y passer beaucoup de temps. Moi, ça fait déjà mon 2e jour sur place et effectivement, j'ai du mal à traverser même les salles tellement il y a d'échanges. Donc c'est vraiment extrêmement bien.
Alors justement, ces interrogations, ces propositions, qu'est-ce que ça concerne ?
Alors, les propositions, elles sont de tous ordres. C'est extrêmement large.
Pour résumer, l'état d'esprit des professionnels face à cette rénovation énergétique.
Alors, il y a deux choses. Il y a la mise en avant des solutions, innovations, technologies que les uns et les autres peuvent déployer pour montrer les dernières avancées qu'ils ont faites dans leur métier respectif, qui peuvent contribuer aux enjeux qu'on poursuit tous. Donc, ça peut être ce biais comme ça. Produits, technologies, approches de système, mais c'est aussi la compréhension qu'il va falloir travailler tous ensemble et avoir des approches beaucoup plus coordonnées. Et c'est ça, je crois, qui est aujourd'hui à l'œuvre. Ce que j'entends beaucoup sur le salon, c'est l'inquiétude justement de passer de la rénovation par geste à la rénovation globale. Oui. Comment est-ce qu'on va faire cette marche-là ? Qu'est-ce que ça va impliquer pour nos organisations les uns et les autres ? Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici, on peut se rassurer ensemble qu'en fait, il y a des passerelles qui sont possibles, que les choses sont en train de se mettre en œuvre. On voit également aussi des opérations réalisées avec des prix qui sont remis à différents endroits. Et ça, c'est très stimulant parce que là où on a l'impression que c'est impossible, d'autres ici l'ont déjà fait. Donc finalement, ça trace un chemin.
Et c'est vrai que là, vous parliez de la rénovation geste par geste. Donc c'est par exemple élément par élément. Et c'est vrai que ça, c'était une inquiétude de la part des professionnels. Avant, on changeait une chaudière, on refaisait les fenêtres. Et là, c'est la rénovation globale. Et c'est ça qui peut inquiéter.
Alors, l'idée, c'est d'aller de l'un vers l'autre.
Bien sûr.
De l'un vers l'autre. Il y a quelques années en arrière, on nous disait la rénovation globale, ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, la rénovation globale, on en fait. Et l'objectif, c'est qu'on en fasse de plus en plus et que dans quelques années, ça s'impose comme étant la solution presque principale et que finalement la rénovation d'un geste isolé ce soit finalement plutôt de la maintenance que vraiment un acte de rénovation complet.
Alors des aides, il y en a. D'ailleurs France Rénov' a été lancée. En revanche, il y a un reste à charge et puis tout le monde n'est pas éligible aussi à ces aides. Et il y a un reste à charge qui parfois pèse sur les ménages, d'autant plus qu'il y a des difficultés de financement depuis plusieurs semaines, quelques mois. Comment le gouvernement peut agir là-dessus ?
En fait, dans le global des aides qui ont été mises, il faut voir que depuis 2017, que nous, on travaille sur ces sujets en tant que députés, les budgets n'ont fait qu'augmenter sur la rénovation énergétique.
Après, maintenant, on est quoi, à 4 milliards
Avec une annonce qui devrait être confirmée lors du PLF.
Qui
qui va être encore plus ambitieux. Donc on ne peut que s'en réjouir.
C'est 5 milliards 8. Hein,
si, en fait, on a plus de 5 milliards. Il faut savoir que sur les 7 premiers milliards de MaPrimeRénov ont derrière entraîné plus de 21 milliards de travaux. Donc on voit bien que c'est moteur et que c'est important pour pouvoir lancer cette dynamique et que les gens ont besoin un petit peu
D'être guidés, d'être
guidés, puis avoir, je ne sais pas si on peut appeler ça, c'est pas forcément une carotte, mais c'est comme ça, le fait d'avoir quand même une volonté politique du gouvernement d'accompagnement financier, ça déclenche bien entendu des travaux essentiels, importants et bien plus, voilà, avec des montants qui sont très intéressants.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un effet d'entraînement avec la logique de rénovation globale. Là où les gens rentraient en se disant, j'ai besoin d'un équipement qui... D'ailleurs, des fois, ça tombait un peu sous le coup de la maintenance. Hein. On avait un équipement de chauffage qui était moins performant, des menuiseries qui étaient plus terribles, un ressenti de froid. Aujourd'hui, ils vont aller voir un conseiller qui va pouvoir leur dire, votre vision complète de votre logement, vous pourriez faire ça, mais vous pourriez faire ça aussi, et vous pourriez ajouter ça. Et du coup, ça permet d'avoir une vision complète de ce qui va permettre d'avoir du bien-être dans son logement. Et c'est vrai que la question du reste à charge, on l'a bien en tête, on a bien conscience que... La crise dans laquelle on est, les gens, ils ont effectivement des difficultés de pouvoir d'achat, c'est une réalité, mais c'est pris en compte puisqu'aujourd'hui, la plupart des aides, elles sont ciblées vers les ménages les plus modestes. Et donc ça, c'est quand même une...
Oui, il y a toujours un reste à charge.
Bien sûr, mais ça a toujours été le cas.
Oui, mais je veux dire avant, c'était plus facile de faire un prêt bancaire pour ce reste à charge, et c'est ça maintenant qui est compliqué.
Eh bien, vous mettez le doigt sur un sujet extrêmement important sur lequel nous travaillons avec Lionel,
c'est que les banques ne jouent plus le jeu.
Eh bien, c'est le fait qu'il faut que les banques rejouent le jeu, et on travaille à des solutions. Ça pourrait être l'idée d'une banque de la rénovation qui pourrait être mise en œuvre, mais en tout cas, il faut qu'on lève cette problématique du financement.
Parce que ça bloque un grand nombre de ménages, en fait.
Absolument. Aujourd'hui, je crois que c'est 3 prêts sur 4 qui sont refusés, et donc effectivement, ça bloque tout. Et donc ça, il faut qu'on puisse retrouver des marges de manœuvre là-dessus, parce que le reste à charge pour les ménages qui en ont les moyens, c'est une bonne chose, surtout que sur la durée, ils peuvent s'y retrouver sur les économies d'énergie qui sont réalisées, donc ça a du sens. Et puis ceux qui peuvent se permettre de contribuer un peu, c'est bien qu'ils contribuent un peu pour que ceux qui peuvent vraiment pas aient des aides plus importantes. Mais du coup, effectivement, il faut que les banques jouent le jeu. Donc, c'est un de nos axes de travail.
Et qu'est-ce que vous comptez faire, justement, pour réussir à convaincre le système bancaire ?
Le système bancaire, à mes yeux, a aujourd'hui toutes les solutions. Ils savent faire beaucoup de produits, énormément de solutions pour accompagner au niveau des prêts. Alors, effectivement, comme disait Marjolaine, il y a éventuellement la solution d'une banque un peu unique qui serait un portail d'entrée qui permettrait peut-être d'être un peu plus spécialisé et d'être identifié comme justement un établissement qui aura la solution en termes de prêt, donc pourquoi pas. Mais je crois qu'il faut qu'on construise ça, bien sûr, avec les établissements bancaires, mais il faut qu'ils se mobilisent plus qu'aujourd'hui.
En fait, l'idée, ce serait qu'ils aient bien une façade d'entrée, mais que derrière, ils soient bien distributeurs des aides quand même. Il faut qu'aujourd'hui, ce qu'on se pose la question, c'est est-ce qu'on a besoin pratiquement d'un interfacier entre le ménage et les banques ? Est-ce que c'est trop complexe pour eux ? C'est ça qu'on étudie avec les banques. Alors, certaines banques nous disent non, on sait y aller en direct, on leur dit chiche. Et si on n'y arrive pas, les parlementaires peuvent réfléchir aujourd'hui à des solutions de financement plus massives. Il y a plusieurs propositions qui sont sur la table du côté parlementaire. Ça, c'est la mission d'information sur laquelle on est en train de travailler avec d'autres collègues.
Donc pour le reste à charge, toujours.
Sur la question du financement. Ouais. Et du coup, reste à charge, financement, oui. Ouais. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est l'État qui, à la fin, doit faire un prêt ou le garantir de manière beaucoup plus systématique ? Est-ce que c'est les banques privées qui doivent jouer leur jeu ? Est-ce que c'est des systèmes hybrides entre les deux ? Mais en tout cas, on
donc, sur qui va reposer le risque, entre guillemets ?
On ne peut pas avoir seul toutes les clés du système, mais aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas se permettre de continuer à avoir des gens qui n'ont pas accès à des moyens de financement. Donc, il y a énormément d'innovations qui sont, même de ce point de vue-là, mises en avant.
Il y a des acteurs privés qui jouent le jeu, notamment, alors nous, on a reçu Brico Dépôt, qui propose à ses clients, et même pas aux personnes qui viennent leur demander, parce que ce n'est même pas des clients, d'avancer les frais, donc d'avancer les aides, en fait, de prendre en charge la partie qui sera remboursée par MaPrimeRénov parce que ça met parfois du temps. Hein. D'ailleurs, il y a eu de nombreuses fraudes, donc ça a rallongé les délais. Parfois, c'est 6, 8 mois, 10 mois.
Mmh. Ce qui peut mettre d'ailleurs en péril les entreprises.
Tout à fait, les petits entrepreneurs qui ont une petite trésorerie. D'ailleurs, il y en a qui refusent hein, maintenant de faire des rénovations globales. On en a reçu aussi sur notre plateau. À cause du délai d'approvisionnement, ils ne veulent plus en faire parce qu'ils ne peuvent pas en fait en termes de trésorerie. Et justement, donc Brico Dépôt a lancé une grosse campagne de communication. Ils vont avancer aux particuliers. Ils vont prendre en charge donc ces aides en attendant de les recevoir. Donc ça permet de débloquer un petit peu la situation. Après, encore une fois, il reste le fameux reste à charge où, encore une fois, il faut trouver un financement. Donc c'est vrai qu'il y a
C'est que des solutions se mobilisent et ce qui est intéressant, c'est que les solutions ne viennent pas que d'un côté. On peut poser des diagnostics, voir là où il y a des points d'étranglement, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les solutions elles viennent de tous les acteurs. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est d'accueillir ce qui ressort et de voir ce qui est pertinent et ce qu'on peut accompagner.
Il faut mobiliser tout le monde, bien sûr. Quoi. On a MaPrimeRénov', on a les collectivités, il ne faut pas oublier qu'apportent des subventions. Et là, je pense que ça, il y aura de plus en plus d'argent aussi de la part des collectivités, parce qu'on a conscience aujourd'hui que lorsqu'on reçoit, moi j'ai été maire avant d'être député, j'avais au CCAS souvent des demandes de paiement de factures, d'électricité, enfin voilà, des diverses et variées, parce que les gens ne pouvaient pas les payer. Et finalement, on a tout intérêt à ce qu'ils consomment moins, plutôt que d'aller sur le fait d'effacer des factures. Donc on a de quoi mobiliser beaucoup d'argent. Puis il y a tout le secteur de la santé. On sait l'impact qu'il y a sur la santé aussi, le fait d'être dans des logements aujourd'hui insalubres. Donc ce sont des sujets qui sont bien identifiés. C'est pour ça qu'il faut accélérer, il faut aller vite. Le reste à charge, on doit le travailler pour qu'il soit supportable. Il en faut, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas question de payer 100% des travaux. Il faut
responsabiliser
aussi les gens. Mais il faut que ce reste à la charge soit supportable et puis qu'il soit en partie peut-être dans la durée financé sur les économies de consommation d'énergie, puisque bon, c'est quand même l'objectif.
Oui, avec l'hiver qu'on a passé, on a vu les factures aussi.
Et ça appelle la notion de garantie de performance. Voilà. Derrière, si on veut être sûr que ça fonctionne, il faut que les résultats d'économie d'énergie soient au rendez-vous. Donc ça, c'est vrai que ça appelle aussi et interpelle toute la filière. Il faut qu'on ne soit pas simplement sur l'obligation de moyens, mais vraiment sur l'obligation de résultat.
Un petit mot peut-être sur le calendrier du fameux DPE, diagnostic de performance énergétique pour les propriétaires bailleurs. Clairement, il est intenable. Les professionnels de l'immobilier ne cessent de le répéter. Est-ce qu'il y a des chances qu'il soit décalé, ce calendrier ?
La problématique qu'on a sur ces sujets de rénovation depuis le début, c'est qu'on a des calendriers qui sont annoncés en général longtemps à l'avance.
Et là, il était...
Alors, certes, mais enfin, sur la question des audits, des obligations qui sont margées, nous, on en a parlé déjà depuis 2019.
Hein. Et puis les logements insalubres, ça fait longtemps que c'est quand même aussi interdit. On les retrouve là-dedans.
Hein, oui, mais alors, attention, parce que dans les passoires thermiques, à Paris, il y a plein de passoires thermiques G qui ne sont pas insalubres.
Oui, mais il y en a
mais
aussi.
Mais ça pose la question,
aussi,
d'ailleurs, de ce terme
d'indécence. Faut savoir jusqu'où on va, oui, parce que la différence entre les deux, c'est effectivement, vous avez des rongeurs en plus, quoi. Mais bon, voilà, on en est là sur, effectivement...
Non, là, vous exagérez.
On peut retrouver ce genre...
Ça existe aussi. Et en fait, ce qui est vrai, et là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, avec le terme d'indécence énergétique, on a des gens qui sont absolument surpris, propriétaires bailleurs, qui disent « Mais moi, je ne suis pas un thénardier, suis pas quelqu'un
qui respecte l'encadrement des loyers. »
Et qui découvre, il se dit « Mais non, mais mon bien, il est très bien, regardez, les peintures sont nickel. » Et en fait, on leur dit « Oui, mais ça, en fait, ce n'est pas juste un logement qui soit joli, il faut qu'il soit performant énergétiquement, parce que c'est notre responsabilité collective que d'avoir des logements qui soient performants, parce que des ménages qui sont dans un logement qui n'est pas performant, de deux choses une, soit ils surconsomment de l'énergie et d'un point de vue national, on se rend bien compte qu'on a besoin d'en consommer moins parce que sinon on ne boucle pas. Et de l'autre côté, c'est des factures énergétiques qui pendent les ménages et qui les mettent dans des situations assez intenables. Donc aujourd'hui, cette question d'indécence énergétique, elle vient bousculer des propriétaires bailleurs. Moi, je comprends que ce soit un peu choquant qu'on les renvoie à des choses qu'ils se disent « mais je ne suis pas insalubre ». Mais en même temps, il faut vraiment qu'on dise que ça n'est plus tenable aujourd'hui d'avoir des passoires thermiques. Une passoire thermique, c'est grave en fait. Et c'est pas grave parce que ma peinture, elle est jolie et j'ai les moyens de payer mes...
Mais le problème, c'est que ça va retirer un grand nombre. Il y a 5 millions d'œufs de passoires thermiques. Ça va retirer 5 millions d'œufs si les propriétaires ne peuvent pas faire de travaux du marché de la
location. Aujourd'hui, on a encore un peu de temps devant nous pour atteindre les résultats. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de mettre toute notre énergie, pas à déplacer la deadline, mais à mettre toute notre énergie pour réussir à tenir la deadline.
Oui, mais il faut que les propriétaires aient de l'argent aussi pour faire ces travaux.
Il faut qu'ils aient des financements. Il faut qu'ils aient des financements. Il faut qu'on arrive à trouver les moyens d'eux. Et à un moment donné, on a plusieurs types de propriétaires. Il n'y a que 10% de propriétaires bailleurs qui sont eux-mêmes pauvres. Vous avez une part très importante de bailleurs qui sont multipropriétaires.
La plupart, la plus importante des propriétaires bailleurs ont un seul logement qu'ils louent, et souvent c'est un complément de retraite parce qu'ils ont une toute petite retraite.
Oui, mais vous avez, encore une fois, vous avez un volume important de multipropriétaires, et vous avez une part de gens qui ont effectivement fait une opération qui dit c'est comme ça que je vais assurer ma retraite. Donc pour chacun de ces cas, il faut qu'on ait des réponses adaptées, c'est ce que j'essaye de dire. Vous avez des aides pour les propriétaires bailleurs qui sont très modestes, qui sont adaptés à leur situation. Il y a des situations pour les ménages qui ont fait des choix d'investissement qui aujourd'hui ne sont pas pendus, mais qui se retrouvent mis en cause dans leurs choix patrimoniaux.
Je vous arrête. Je suis partie à Nantes avec la FNAIM. On a rencontré des copropriétaires, on a rencontré des propriétaires bailleurs sur le terrain qui n'avaient qu'un appartement avec une toute petite retraite, et malgré les aides, qui ne peuvent pas faire les travaux et qui sont coincés. Et en fait, ils ne savent pas comment ils vont faire. Et c'est
après,
des gens qui...
La première responsabilité d'un propriétaire bailleur, c'est d'avoir riches. Un logement qui est correct pour les personnes qui y vivent.
Parce que leur logement, comme je vous l'ai dit, c'est correct. C'est pas insalubre, c'est juste qu'en effet, ils savaient même pas que c'était des charges énergétiques
très élevées pour leurs occupants, quand même, qui eux n'ont pas les leviers pour faire les travaux eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas propriétaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des. L'idée, c'est de punir personne, vraiment. L'idée, c'est d'accompagner chacun de ces ménages concernés par les travaux de rénovation, chacun dans les situations qui sont les leurs. Et on a des briques de réponse pour chacun d'entre eux. Aujourd'hui, il ne faut pas être en défensif, il faut être à l'offensif sur ce dossier et aller chercher les solutions. Elles sont disponibles, il y a des gens sur les territoires pour les accompagner. On essaye de lever les problèmes de financement.
On voit la dynamique qui se met en place, je crois que c'est ce qu'il faut regarder. Après, on aura des difficultés, on aura forcément des cas qu'on ne pourra pas résoudre dans les délais. On verra, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on est sur une dynamique, il faut l'amplifier. On en a parlé, les acteurs sont là, ils se mobilisent, il y a des solutions de financement de plus en plus. Il y en a des nouvelles, on nous en a annoncé une, il y en aura peut-être d'autres dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc notre objectif, c'est celui-là pour l'instant, pour nous aujourd'hui.
Oui, mais vous comprenez que couplé au nombre de transactions qui baissent, aux biens mis en location qui baissent, le retrait de ces passoires thermiques sur le marché, ça vient aggraver le problème du logement en France.
Nous en avons conscience. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, ce n'est pas encore confirmé d'après les données. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est rester sur cette dynamique. Non, qu'il y ait une baisse de la construction, tout ça, on le sait, la situation du logement, on le sait. Mais pour la rénovation, il y a une véritable dynamique, elle est là, il faut l'amplifier. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps en 2024 de faire un point et de voir effectivement pour les situations qui n'auraient pas été résolues, comment on les traite et quelles sont les réponses que l'on apporte. Mais aujourd'hui, je pense que c'est encore trop tôt. Et
alors,
puis ça pourrait venir
pas,
mettre
le,
des
Le ne vous inquiétez pas, je ne sais pas s'il est de bon augure, mais en tout cas, c'est vrai que les chiffres sont là. Alors, moins 17% de biens en location. Là, on a reçu un agent immobilier hier à Metz pour une annonce en location. Il y a 231 candidatures. Il a dû couper les candidatures tellement il y en avait.
Vous savez
12%
que ça vient,
des étudiants ne peuvent pas se loger, ont dû arrêter leurs études.
On est entièrement d'accord là-dessus, mais non, on ne peut pas sortir ces chiffres sans faire une analyse. Je prends un peu de recul et faire une analyse globale.
Aujourd'hui, est-ce qu'on ne perd pas trop de temps à faire des analyses?
Non, ce n'est pas forcément lié au F et au G, au fait qu'il soit sorti la location. Vous avez sur la baisse de la location aujourd'hui l'arrêt du Pinel, vous avez le Airbnb qui se développe sur... Il y a beaucoup de choses. Hein,
mais ça ne va pas arranger.
Mais là, vous nous parlez du...
Ouais. Oui, parce que je vous dis, c'est déjà dramatique, mais en plus, avec ce calendrier, ça va encore...
C'est pour ça que je vous dis qu'en 2024, on regardera en 2024 avec le gouvernement, comptez sur nous, pour voir quels sont les objectifs que l'on doit se fixer pour pouvoir continuer sur cette dynamique et faire en sorte, bien entendu, qu'il n'y ait pas 400 000 logements qui sortent de la location. Ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas l'objectif du gouvernement. Donc on apportera des réponses.
Et pour compléter ça, on est tous les deux présents sur le salon pour être justement en contact direct avec les acteurs, pour échanger avec eux, pour trouver les solutions. Mais ce qui est certain, et moi je rejoins absolument Lionel Cos là-dessus, c'est qu'il est trop tôt pour travailler sur le repousser les limites. Ça fait un certain temps quand même, depuis 2015 qu'on a un objectif d'éradication des passoires. 2015, on est pratiquement 10 ans plus tard. Et en fait, si on ne met pas de contraintes, si on ne met pas une forme de pression dans la machine, en fait, la réalité, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose sur le sujet. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et ce n'est pas une question de choix ni d'individus, de parlementaires qui inventeraient comment on va faire, on va embêter les Français ce matin, on ne se réveille pas avec ça dans la tête. La question, c'est qu'on a un objectif final qui est que les gens vivent bien dans leur logement, ils ont tous droit de bien vivre dans leur logement, ils ont tous le droit à avoir des logements où les charges énergétiques ne les étranglent pas tous les jours, parce que ça c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Et de l'autre côté, on a des enjeux climatiques et énergétiques extrêmement forts dans les années qui sont devant nous, et là personne ne les remet en cause. Personne ne les remet en question. Et la question, c'est que passoire thermique n'est que la première marche de tout un escalier. L'objectif d'ici à 2050, c'est de traiter l'ensemble du parc bâti français pour qu'il atteigne le niveau bâtiment basse consommation en moyenne. C'est ça l'objectif final qu'on traite. Donc si aujourd'hui, les passoires thermiques ils ne représentent pas du tout la majorité des logements, si déjà là, on trébuche sur la première marche, comment est-ce qu'on va faire quand on va devoir tomber sur les D, les E et les C et remonter encore jusqu'au niveau A et B? Bah, la réponse, elle est que si vous continuez à repousser la deadline FEG, la réalité, c'est que le temps qui vous restera pour faire tout le reste, eh bien, ce sera impossible et on ne tiendra pas nos objectifs.
Après, vous reconnaissez que ça tombe un peu au mauvais moment.
Mais en fait, c'est jamais le bon moment, si vous êtes d'accord, parce qu'on nous a dit ça en 2015, moi, j'y étais pas, mais c'est jamais le bon moment d'y aller. En 2019, quand on en a parlé, c'était avant les crises dont on parle, en 2019.
Oui, mais là, c'est vraiment le pire moment entre 2015 et 2019, il aurait fallu les faire avant, du coup.
Ah, mais moi, je veux bien, mais pour le coup, nous, on n'y était pas, peut-être que vous vous
y étiez. On peut se poser la question s'il fallait faire avant, nous, on est là aujourd'hui.
Ce qu'on veut, c'est que ça se passe maintenant. On est tous au pied du même mur.
Et il y a franchement une dynamique, on n'en a jamais autant fait.
C'est vrai qu'il y a peu de climato-sceptiques maintenant, avec l'été qu'on a passé, l'hiver, j'imagine que c'est vrai, tout le monde. Mais certains Français pensent déjà à finir le mois avant de penser à la planète, c'est
mais, ça. Oui, mais en fait, le sujet, c'est que nous, on doit penser les deux en même temps.
Parce oui, mais alors dans ce cas-là, il faut demander à la Chine et à l'Inde et aux États-Unis de aussi jouer le jeu.
Mais c'est ce qu'on fait, par ailleurs, à l'échelle internationale. Bien sûr que c'est ce qu'on fait. Il faut rappeler que le secteur des bâtiments, il représente 45% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. C'est énorme. En France, c'est sûr qu'on n'est qu'à une vingtaine de pourcents. Mais le levier, il est quand même énorme. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est un non-sujet. Donc, bien sûr, on est engagé là-dedans. Aujourd'hui, en France, on fait partie des pays qui sont leaders sur ces sujets, à la fois sur la décarbonation, à la fois sur le sujet de l'ambition de l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, soyons-en fiers, parce que nous avons des solutions, et ces solutions, elles seront nécessaires partout dans le monde. Donc, quand nous, on solutionne nos sujets, on aide aussi à les solutionner à différents endroits, parce qu'on se servira de l'inspiration de nos entreprises, nos industries, etc., dans les pays qui n'auront peut-être pas fait les prises de conscience que nous, on a fait en ce moment, et à la vitesse où on est, nous.
Allez, une dernière question plus légère, après je vous libère pour déjeuner. Il y a beaucoup de jeunes sur le salon, c'est vrai qu'on voit une effervescence, des jeunes intéressés. Vous en avez rencontré, est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Ils sont intéressés, ils ont envie de donner du sens, c'est ce que nous disaient les professionnels à leur métier?
Oui, il y a une vraie dynamique, ce qu'on disait au début. Il y a beaucoup de recherche et d'innovation aussi sur tous ces secteurs pour apporter des réponses et des solutions. On voit que tous les acteurs sont mobilisés. Les jeunes sont là, j'en vois plein en face de moi, et effectivement, c'est assez, je dirais, positif de voir que toute la société veut être au rendez-vous. Si tout le monde est là, c'est aussi parce que quelque part, nous avons pris des décisions sur le plan législatif ces dernières années, dans la loi climat et résilience et dans d'autres lois, pour que justement la rénovation énergétique, tout ce qui concerne l'énergie, production d'énergie, voilà, tous ces enjeux-là sont aujourd'hui, je dirais, abordés par tout le monde. Et tout le monde a conscience qu'il y a des perspectives et qu'il y a des choses à construire ensemble. Donc voilà. Enfin, moi, je suis très optimiste, même si j'ai bien conscience qu'il y aura des difficultés. Mais que ces difficultés, déjà, les difficultés les plus importantes, c'était de légiférer pour nous. Parce que quand on ne légifère pas, on dit qu'on ne fait rien. Quand on légifère, on dit qu'on en fait trop. Donc,
c'est vrai que ça n'a jamais. Voilà. Les Français sont très râleurs.
Donc nous avons pris la responsabilité de le faire, sur beaucoup de sujets d'ailleurs. On l'oublie. Et maintenant, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que, justement, on arrive à créer cette conduite du changement. Et qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde se motive et tout le monde se mobilise, voilà, pour atteindre nos objectifs, qui sont, comme l'a dit Marjolaine, importants, qui sont nationaux, mais qui sont aussi internationaux. Donc on n'a pas le droit, aujourd'hui, de faire croire aux Françaises et aux Français qu'on peut continuer comme avant, qu'il n'y a pas de date, qu'il n'y a pas d'objectif, qu'il n'y a rien. Ça serait la pire des choses. Enfin, en tout cas, moi, en tant qu'élu, mais chez Marjolaine est pareil, on ne prendra jamais cette responsabilité. On n'a pas été élu député pour dire aux Français que... demain sera comme aujourd'hui, après-demain comme aujourd'hui, etc., etc., et qu'on peut continuer comme on faisait avant.
Non. Donc faire changer les choses.
On a des conduits de changement à faire.
C'est ce que vous tentez de faire aussi avec l'Alliance HQ, dont vous êtes la présidente.
Oui, absolument. Alors, avant de parler de l'Alliance HQ-GBC, je voudrais quand même dire que la situation de crise énergétique qu'on a connue à l'échelle européenne, c'est 700 à 800 milliards d'aides à payer les factures qui ont été déclenchées à l'échelle européenne.
Imaginez les boucliers, à différents
niveaux, tous les boucliers tarifaires, etc., qu'on a mis en place. Imaginez tout ce qu'on aurait fait si cet argent-là, on avait pu le mettre de manière avant, en prévention, pour traiter les bâtiments depuis les années 70. Concrètement, aujourd'hui, on paye les retards qu'on a accumulés au travers des années, donc il n'est plus question aujourd'hui.
Et si on avait réactivé les centrales nucléaires aussi?
Mais absolument, c'est tout ça est coordonné, mais la priorité, c'est la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Et la première des erreurs, c'est d'avoir là-dessus pas été assez ambitieux dans les années passées. Aujourd'hui, on est dans un moment où on ne peut plus pousser la pierre devant nous et continuer, comme l'a dit Lionel, de se dire qu'on va continuer, puis ça ira. Aujourd'hui, non, ça ira pas. Et on sait qu'on paye. La crise sociale, possiblement devant laquelle on est, elle est pire si on ne traite pas les sujets. Donc, on ne rend pas service aux gens si on leur dit aujourd'hui, on repousse les ambitions. Donc, ce n'est pas notre objectif. Et vous parlez de la jeunesse. La jeunesse, c'est à la fois nos premiers garde-fous, parce qu'ils nous regardent agir, tous, et ils nous attendent au tournant, et ils ont bien raison, parce que leur avenir et celui de la planète, ils sont absolument liés. Mais c'est également nos premiers enthousiastes. Ils arrivent avec une énergie sur ces sujets. Enfin, il n'y a rien de tel que d'aller visiter une école dans laquelle ils s'engagent dans les métiers de la rénovation ou du bâtiment durable pour voir des jeunes qui savent pourquoi ils se lèvent le matin, qui voient à quel point ces métiers dans lesquels ils vont s'engager ont du sens et dans lesquels ils vont être utiles. Enfin, je veux dire, il y a peu d'endroits dans lesquels c'est aussi logique de se lever le matin.
Ça bouge très vite, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche, beaucoup de choses
à
construire.
C'est ça qui tire les jeunes aussi.
C'est vrai que ça tiraille. On va pas dire que c'est simple, mais c'est essentiel. Et en même temps, c'est un tel défi, c'est un challenge tellement incroyable qu'en même temps, il y a énormément de plaisir à avoir dans cette période-là et énormément d'opportunités aussi à saisir.
Allez, un dernier mot sur l'Alliance HQE et après je libère.
L'Alliance HQE-GBC, c'est une association d'utilité publique qui réunit et les organisations professionnelles dans la transition environnementale, dans leurs engagements. Donc leur idée à cet endroit-là, c'est de voir comment ils peuvent aller plus loin sur tous les sujets qui nous préoccupent, voir comment ils peuvent être à l'avant-garde des bonnes pratiques et les rendre accessibles à tous ensuite dans un deuxième temps. C'est principalement ça l'Alliance HQE-GBC.
Tout simplement. Eh bien, merci infiniment Marjolaine Meignet-Millefer et Lionel Cos pour cette interview. Il est temps d'aller déjeuner. On se retrouve très vite sur nos antennes.
RénoDays, le forum de la rénovation globale et performante des logements, les 12 et 13 septembre 2023 à Paris Expo, porte de Versailles.